tous les vendredis, Vivre FM, c'est vous donne la parole aux aidants. Les aidants, ce sont les proches d'une personne handicapée, âgée, malade. Ça peut être un parent, un enfant, un frère, une sœur. Et vous avez la parole dans cette émission, hein, si vous vivez cette situation. Notez bien cette adresse témoignage@vivrefm.com. C'est l'adresse mail si vous souhaitez raconter votre histoire, comme va le faire dans quelques instants Hélène, ou si vous souhaitez poser une question, on répond aux questions en fin d'émission. Qui y répond? Ben, c'est Michel Guimel-Chimbonnet qui est avec nous une nouvelle fois. Bonjour Michel.
Bonjour Christophe.
Merci d'être là Michel, psychologue de nos auditeurs, toujours avec vos précieux conseils. Voici le premier témoignage, le témoignage de cette émission. C'est Hélène qui est avec nous au téléphone. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bonjour.
Hélène, vous êtes la maman de Marjolaine. Marjolaine est âgée de 23 ans. Elle est atteinte d'une maladie rare qui s'appelle le syndrome de Sapho. Alors, on aura l'occasion d'expliquer en détail ce que c'est. On peut dire déjà qu'il y a des conséquences motrices, des douleurs, des difficultés articulaires aussi. Mais cette maladie, cette étiquette, entre guillemets, elle a été très longue à poser, hein.
Oui, le diagnostic a été posé au bout de 11 ans et demi, puisque notre fille a commencé à souffrir à l'âge de 4 ans, et que le diagnostic n'a été posé que quand elle avait 15 ans et demi. Donc toute son enfance a été marquée par le début de ses douleurs, ses difficultés, ses multiples fractures, qui ne se voyait pas beaucoup à la radio, qui était difficile à déceler, avec tout un tas de conséquences pour sa scolarité, pour la pratique du sport qu'elle aimait beaucoup, qu'elle a été obligée d'interrompre. Voilà.
Les chocs survenaient en général en faisant des activités que tous les enfants font. Hein. Voilà, elle jouait, elle pouvait jouer à la corde à sauter, elle faisait du vélo. À 12 ans notamment, il y a une chute de vélo. Enfin, vous compreniez déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Ben, tout à fait, parce que c'était quand même assez curieux que pour des petits traumatismes absolument bénins et courants chez un enfant qui joue, qu'elle puisse souffrir autant et avoir autant de difficultés à cicatriser et à s'en remettre, c'était toujours très très long et extrêmement douloureux. Donc voilà, au début on se dit on a un enfant qui est un peu douillet, et puis finalement au bout d'un moment on commence à se dire mais non, il doit y avoir autre chose. Et bon, avec mon instinct de mère, je pense que j'avais plus d'affinité pour sentir que ma fille souffrait vraiment. Et voilà, j'ai consulté beaucoup de médecins différents et qui étaient un peu perdus.
Ils ont eu confiance déjà en votre demande. Enfin, il y a aucun médecin qui a écarté comme ça, qui vous a dit « mais non, c'est rien ou... ».
Oh si, plusieurs fois, y compris des rhumatologues. Voilà, qui nous ont dit, vous savez, elle vous fait sa crise d'adolescence, elle veut se faire coucouner, alors voilà, surtout après son accident de vélo à 12 ans, bon, donc, et puis ensuite, quand on est convoqué par les infirmières scolaires qui commencent à se demander si on lui fait pas du mal à la maison, ça commence à devenir assez malsain et difficile à supporter dans le regard des professeurs et des infirmières scolaires, alors que on essaye de tout faire pour aider son enfant qui souffre, on est suspecté de lui faire du mal.
On va demander votre point de vue, Michel Guimel-Chimbonnet, là-dessus. Au mieux, on est pris pour des simulateurs, entre guillemets, ou des gens qui cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Au pire, comme le dit Hélène, on est accusé de
maltraitance sur l'enfant. Oui. Alors, c'est effectivement, quand on est tout à fait persuadé, d'abord qu'on ne maltraite pas son enfant et qu'il a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas comme les autres enfants, et que on ne trouve pas le pourquoi du comment, c'est vrai qu'on est extrêmement malheureux. En même temps, je suis obligée, pour essayer d'être objective, de dire que parfois c'est parce que les infirmières scolaires ou les instituteurs décèlent quelque chose qui ne va pas chez un enfant que on se rend compte que la famille le maltraite. Effectivement.
Oui, donc c'est vrai. Il y a quelques rares cas, mais où c'est la vérité.
C'est ça. Bien sûr. Ça correspond à une réalité. Donc, en effet, non. Ce qui est dommage, c'est que on suspecte tout de suite les parents, sans poser de questions. On dit, si votre enfant fait des fractures à répétition, c'est parce que vous le battez. Alors qu'on pourrait dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, alerter aussi le médecin scolaire, alerter aussi un certain nombre d'autres personnes qui pourraient réfléchir ensemble. Mmh. C'est ça qui est dommage.
Oui, oui, oui.
Hélène, comment ça s'est précisé, alors, le diagnostic? Il y a eu une hospitalisation, hein, je crois, à Poitiers, c'est ça, pendant 15 jours. Là, ça a commencé à s'éclaircir?
Oui, c'est-à-dire qu'on a vu un troisième rhumatologue en Charente-Maritime qui, lui, a commencé à se demander avec les clichés qui ou sur lesquels il commençait à avoir des cales un peu curieux avec des auto-microfractures au niveau des vertèbres. Oui. Ça lui a mis la puce à l'oreille et là, il s'est dit il faut faire des investigations un peu plus poussées. Et là, il nous a proposé d'aller voir un service spécialisé à Poitiers, qui a gardé notre fille 15 jours, qui a fait beaucoup d'examens pour éliminer un certain nombre de pathologies, dont l'ostéogenèse imparfaite, qui est ce qu'on appelle communément la maladie des os de verre,
oui.
Et puis aussi éventuellement une tumeur osseuse.
Oui.
Bon, donc tout ça, ça a été éliminé, et puis peu à peu, le professeur avec son équipe a cherché et a trouvé, enfin a posé ce diagnostic du syndrome Safo. Qu'elle a demandé à faire confirmer par un spécialiste sur Paris.
Une fois que vous avez eu ce mot, une Safo, que vous avez connu le nom de cette maladie, bah,
voilà.
On est soulagé ou au contraire on se dit qu'est-ce que c'est que ce machin et comment ça va évoluer?
Voilà, alors c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'enfin il y a un nom. On se dit bon, voilà, on n'est plus tellement en terrain inconnu, enfin on espère, au niveau des médecins. Donc on va peut-être avoir une orientation, peut-être un traitement, etc. Donc il y a une porte qui s'ouvre, mais en même temps, avec beaucoup de questions, et puis un petit peu d'angoisse aussi, parce que on se dit, alors voyons, qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce que ça va donner pour plus tard? Et là, à Poitiers, on n'a pas eu les réponses tout de suite. Il a fallu qu'on aille à Paris pour comprendre un petit peu mieux cette pathologie, est-ce que ça allait pouvoir donner. Voilà, là par contre on a été vraiment très très bien pris en charge avec quelqu'un qui ne soigne pas que des os mais aussi la personne entière avec les conséquences, qui tient bien compte des conséquences sur la vie scolaire et professionnelle de ses patients et qui est très à l'écoute.
Michel, avoir cette étiquette, entre guillemets, le nom de la maladie, c'est le début d'autre chose.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est sécurisant parce que du coup, on se dit, ben non, si mon enfant a des fractures, c'est pas parce que je cogne dessus. Je peux répondre aux infirmières scolaires, par exemple.
Voilà.
Bon, on a une explication. Mais en même temps, vous avez dit c'est une porte qui s'ouvre, et en même temps, elle s'ouvre sur quelque chose de vertigineux, qu'est-ce que va être l'avenir et comment cette maladie évolue-t-elle et comment va-t-elle évoluer en particulier chez mon enfant.
Voilà, tout à fait.
Très rapidement, Hélène, il y a eu le fauteuil roulant, hein, c'est ça pour votre fille.
Oui.
Ça aussi, c'est une étape vers. Là, c'est pas une, ça donne pas une réponse sur le nom de la maladie, mais ça donne une réponse sur le handicap qui est reconnu de cette façon en quelque sorte. C'est pas facile comme étape.
C'est pas facile, oui, surtout à son âge, hein, enfin à l'âge qu'elle avait quand ça a commencé, à 16 ans, en pleine formation, en alternance, dans un métier qu'elle avait choisi, etc. Bon, ça a été un coup dur parce qu'elle était autonome, elle vivait dans un appartement, elle avait son employeur, sa formation en même temps. Après, elle pouvait plus aller au lycée parce que le lycée n'était pas du tout prévu pour accueillir des élèves en fauteuil.
Ah oui.
Donc, elle n'a plus pu aller en cours, donc elle a été obligée de terminer son année toute seule, de quitter son appartement puisqu'il était à l'étage sans ascenseur, etc. On a tout un tas de conséquences qui ont fait qu'elle l'a mal vécu, bon, évidemment, dans son corps, hein, et avec l'angoisse de savoir si un jour elle remarcherait. Qu'elle a réussi, puisque en fait, à chaque fois, elle a été à peu près en fauteuil roulant entre un mois et demi et trois mois. Sur les six dernières années, ça lui est arrivé cinq ou six fois. Et voilà, à chaque fois, elle remarche parce qu'elle a une volonté énorme, elle est très assidue.
Parce qu'il faut expliquer, Hélène, que vous me dites, si je me trompe, mais cette maladie est irrégulière, c'est ça?
Voilà, alors c'est le propre de cette maladie. Comme d'autres spondylarthropathies, hein, c'est-à-dire que ça évolue par poussée.
Oui.
Et il y a des poussées inflammatoires, parce que c'est une maladie auto-inflammatoire, le système immunitaire ne décrypte pas bien les messages de l'inflammation qui s'auto-entretient, comme s'il y avait un corps étranger ou un virus qui était entré dans le corps.
Et il y a des périodes où ça va mieux, alors, où vous l'oubliez presque, cette maladie.
Non. Et puis des périodes où ça s'enclenche, et alors à ce moment-là, il y a une poussée inflammatoire avec rougeur, chaleur, douleur, gonflement, voilà, au niveau articulaire et au niveau même des os longs, et surtout au niveau du sternum, de la mâchoire.
Ça veut dire que, Hélène, ça veut dire que votre fille a moins besoin d'aide dans ces périodes où
voilà,
ça va mieux.
tout à fait, dans les périodes où ça va mieux, elle marche, elle peut faire des activités, conduire sa voiture, voilà. Mais bon, il y a toujours la douleur qui est devenue chronique, hein, qui est permanente, mmh. mais qui est contrôlée, qu'elle arrive maintenant à contrôler au niveau de la prise de ses médicaments, puisque elle a une base d'antidouleur et d'anti-inflammatoire, mais elle peut moduler selon
oui, en
ce qu'elle
de ses besoins.
Voilà, donc elle a appris à augmenter ou diminuer les doses mmh. en fonction de comment elle se sent.
Mmh. Un petit mot, Michel, sur cette notion de poussée et de maladie irrégulière. Alors, j'étais en train de me demander quelle question poser, dire est-ce que c'est bien ou pas d'avoir une maladie irrégulière. Bah, c'est bien quand pour les moments où ça va bien.
Oui.
Mais je dis comment on gère ces poussées et cet aspect comme ça, un petit peu à ping-pong de la maladie.
Oui, c'est très difficile parce que du coup, les personnes vivent dans la crainte qu'une nouvelle crise survienne. Et ça leur gâche un peu la période de rémission. Et ça, c'est vraiment un problème majeur. C'est la raison pour laquelle je pense que dans ce genre de situation, il est vraiment important que la personne soit aidée. Et surtout quand il s'agit de quelqu'un de jeune, il faut vraiment l'aide d'un psychothérapeute de façon à parler de toutes les craintes qui sont liées à cet état réel de maladie, avec ces périodes de rémission où on a envie d'oublier qu'on est malade, et puis tout d'un coup où la crise vous tombe dessus et où on a l'impression que tous les efforts qu'on avait fait avant sont anéantis. Or, ils ne sont pas anéantis. Mais quand on est pris sous une avalanche, c'est vrai qu'on a l'impression de ne plus pouvoir croire à rien. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir parler avec quelqu'un d'extérieur qui soit ni un copain, ni les parents, ni les frères et sœurs, mais vraiment quelqu'un d'autre qui ne connaîtra jamais toute la famille et à qui on va pouvoir dire toutes ses craintes.
On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de l'histoire d'Hélène et puis de sa fille Marjolaine. On parlera de l'aide que vous lui apportez, Hélène, ainsi que son papa. À tout de suite dans La Parole aux Aidants. Vivre FM, c'est vous donne la parole aux aidants jusqu'à 13h. Et comme chaque vendredi, en compagnie de Michel Guimel-Chamonnet, votre psychologue, et avec la suite de l'histoire et du témoignage d'Hélène, qui est avec nous au téléphone. Hélène est la maman de Marjolaine, qui a 23 ans et qui est atteint d'une maladie rare appelée syndrome de Sapho. Vous allez comprendre progressivement tout au long de l'émission ce dont il s'agit. Expliquez-nous, Hélène, en quoi vous aidez votre fille au quotidien? Sur quels aspects, sur quelles tâches de la vie quotidienne?
Oui, alors je vais y venir, mais je voudrais juste revenir sur une petite chose. J'ai entendu que les deux fois où vous avez représenté l'émission, vous avez parlé du syndrome de Sapho.
Oui.
C'est pas de Sapho, j'avais précisé.
C'est Sapho.
C'est Sapho syndrome. Sapho.
Oui.
Voilà, hein, parce que c'est un acronyme. Donc, je peux enchaîner là-dessus pour ensuite parler des différents soins et éléments d'aide que j'apporte à ma fille régulièrement. Il y a dans ces symptômes des symptômes osseux, articulaires et dermatologiques. Donc, qui n'ont pas besoin qui ont besoin de différents soins, différentes attentions. Évidemment, les symptômes osseux et articulaires sont surtout douloureux, avec une limitation quelquefois de l'amplitude des mouvements, une ankylose qui peut venir, une hyperostose qui fait que les os s'épaississent et peuvent avoir des conséquences et douloureuses et gênantes. Donc, qui peuvent amener à un certain stade de perte d'autonomie motrice. Pas forcément pour tout le monde, ça dépend des cas. Toutes les personnes qui sont atteintes d'un syndrome Sapho n'ont pas les mêmes atteintes sur les mêmes parties du corps, ni sur ni les mêmes conséquences. Il y a différents degrés. Et les problèmes de peau sont surtout la pustulose palmoplantaire et le psoriasis, et l'acné. L'acné qui peut être pour certaines personnes assez important, même dans l'âge adulte, au-delà de l'acné juvénile, qui ont des conséquences évidemment sociales et puis même au niveau de l'hygiène à respecter, de tout un tas de choses, et puis de soins, de crèmes à mettre pour les soigner.
Les conséquences sociales, ça veut dire quoi concrètement pour Marjolaine?
Ben, ça veut dire que À 23 ans, quand on continue à avoir un acné très important comme celui qu'on peut avoir à 15 ans, bon, à 15 ans, quand on est dans une classe où tout le monde en a, on sait que c'est passager et que, voilà, tout le monde est à la même enseigne. Bon, on essaye de le, tout le monde essaye de le soigner, mais voilà, on sait que c'est provisoire. Alors que quand il perdure, dans l'âge adulte, on le vit plus difficilement au niveau de l'image qu'on donne aux autres. Et surtout si en même temps on est sur béquille ou en fauteuil, s'il faut accumuler aussi cette image qu'on donne, voilà, c'est, c'est difficile. Et puis la pustulose peut faire peur à des personnes, mais ce n'est absolument pas contagieux, mais ça donne des petites vésicules dans les la plante des pieds et sur la paume des mains. C'est extrêmement irritant, ça démange, ça peut suinter, ça peut saigner. Voilà, donc c'est quand même très difficile à déjà à supporter soi-même, et puis après on a la peau qui desquame avec voilà, donc c'est comme le psoriasis au niveau du cuir chevelu, ma fille en a aussi au niveau des sourcils. Bon, ça c'est pas facile.
On comprend que c'est pas facile, effectivement. Michel, un petit mot sur cet aspect. Alors, à la fois esthétique, c'est important l'image qu'on renvoie aux autres, et puis aussi le problème du handicap visible, c'est-à-dire qu'on voit la maladie ou alors on voit le handicap, soit le fauteuil, soit ses problèmes de peau.
Tout à fait. Sauf que quand il s'agit de problèmes de peau, la plupart du temps, malheureusement, le public non averti, et en règle générale, il est non averti, le public pense que c'est une question d'hygiène.
Voilà.
Donc il y a une espèce de jugement moral qui est porté sur la personne. Et au lieu de se dire c'est une maladie et une maladie c'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'est pas lié à une faute qu'on aurait commise, c'est une maladie. Les gens disent mais il a une mauvaise vie parce que s'il avait une vie normale, s'il avait une vie correcte, il aurait pas tous ces boutons. Et ça, c'est absolument dramatique, parce que c'est là-dessus que nous fondons nos relations avec les autres. Donc, effectivement, l'aspect médical, la vie quotidienne avec les paumes des mains qui saignent et qui limitent les gestes, forcément, il y a des tas de choses que cette jeune fille ne peut pas faire, c'est normal, étant donné l'état de ses mains. Mais en plus, elle peut être tout à fait rejetée par les autres qui vont porter un jugement sur elle de mauvaise. Et si elle intègre cette notion, qui est absolument fausse, elle risque d'en être vraiment atteinte et blessée.
Alors il y a cet aspect, il y a aussi les difficultés, on l'a dit, articulaires, osseuses, il y a les problèmes de mobilité. Donc ça veut dire que concrètement, vous l'aidez comment, Hélène? Vous l'aidez pour manger, pour se doucher, pour s'habiller, ça fait beaucoup d'aide, ça.
Oui, ça fait beaucoup d'aide. Donc, alors ce n'est pas en permanence, heureusement pour elle. On parlait tout à l'heure
et heureusement
avec
pour
les
vous.
Périodes de rémission. Oui, aussi. Donc, dans les périodes où elle est en pleine crise de poussée, alors quelquefois les problèmes de peau et les problèmes articulaires sont concomitants, mais quelquefois c'est l'un avant l'autre.
Ah oui.
C'est-à-dire quelquefois quand il y a une poussée de pustulose ou de psoriasis, on sait que dans les semaines qui suivent va y avoir une poussée inflammatoire au niveau osseux et inversement.
Oui.
Voilà, et elles peuvent être déclenchées l'une ou l'autre par une période de stress ou de très grande fatigue.
Dans ces moments-là, vous êtes auprès d'elle presque à plein temps.
Là, on s'est détectés toutes les deux. Bon, si ça commence par la douleur, je le vois à sa tête le matin quand elle se lève.
Oui.
Je vois que même si elle essaye de pas le montrer, moi, je le déchiffre. Et ensuite, je vois comment elle marche, si elle boite, si... Voilà. Alors, dans les périodes les plus difficiles, je suis obligée, effectivement, de l'aider pour prendre sa douche, s'habiller, se coiffer. Même en période de rémission, elle a du mal à se coiffer parce qu'elle a une épaule bloquée à cause des conséquences de son syndrome.
Vous avez choisi, on ne sait pas si c'était un choix effectivement dans cette situation, mais d'arrêter de travailler vous-même pour vous occuper de votre enfant.
Oui, je me suis arrêtée en 2004 quand elle a été en fauteuil pour la deuxième fois. La première fois on a essayé de gérer comme on a pu, mais la deuxième fois j'ai dit non. C'était la fin d'un contrat à durée déterminée. J'ai dit là elle a vraiment trop besoin de moi, ça va être trop difficile à gérer, surtout que ça avait des conséquences sur son état psychique. Elle était vraiment déprimée. J'ai dit non, je peux pas la laisser comme ça. C'était, elle avait besoin beaucoup de parler. parler, elle avait besoin de sortir, que je puisse l'emmener voir d'autres personnes, même si elle était en fauteuil. Je mettais le fauteuil dans ma voiture, je l'emmenais chez ses amis, je retournais la chercher après, voilà. Parce qu'il fallait qu'elle puisse vivre aussi. Mais elle avait aussi besoin d'aide pour les gestes quotidiens. Quand ses mains sont trop bloquées ou trop prises par les problèmes de peau, etc., ben, y a besoin de faire des gestes de la vie quotidienne avec elle. Et puis, toujours, peu à peu, elle reprend... elle sait que c'est
transitoire.
La rémission va revenir.
Oui,
donc, voilà, elle s'accroche et à chaque fois, elle essaye peu à peu de refaire toute seule le plus possible.
Alors, elle est très courageuse, en tout cas.
Oui.
Oui, je pense. Mais bon, je ne sais pas si c'est la maladie qui l'a aidée ou si c'est qu'elle avait déjà un tempérament. Bon, c'était une petite fille très, très active et sportive et qui est très curieuse. Donc, bon, je pense que ça l'a aidée.
Alors, le papa de Marjolaine, Jean-François, est aussi quelqu'un, vous nous l'avez confié en préparant cette émission, de très actif. Il a eu un petit peu plus de mal à accepter la maladie de sa fille. Expliquez-nous comment ça s'est traduit. Il est un petit peu moins tolérant, entre guillemets?
Oui, en fait, je pense qu'il était dérouté par sa propre impuissance à la soulager. Et donc, du coup, ça s'est traduit, je pense, assez maladroitement par un rejet de la maladie. Je pense que c'est assez commun dans les familles. Et sa manière de faire au début a été source de conflit. C'est arrivé à une période où, bon, elle était en préadolescence. Voilà, donc les discussions avec son papa n'étaient pas toujours simples. Mais du coup,
lui, ce qu'il voulait, c'était la booster, c'était lui
voilà,
dire, dépêche-toi, vas-y, essaye.
Il écoutait à ce moment-là les médecins qui disaient que c'était peut-être une manière de nous faire chanter, etc., oui. Qu'elle était douillette. Bon. Et donc, du coup, il est parti là-dessus. Et puis, bon, il a été élevé dans une famille où on travaille tout le temps, beaucoup. Ils viennent d'un milieu d'agriculteurs qui sont tout le temps en action, qui ont des responsabilités vis-à-vis des animaux, etc. Donc, il faut tout le temps... et il comprenait pas que sa propre fille ait des difficultés et puisse avoir besoin de se poser...
Jusqu'au diagnostic.
Voilà. Et alors, avec le diagnostic et surtout avec la rencontre avec d'autres personnes de l'association que nous avons rencontrées après. Mmh. Et il a pu se rendre compte qu'elle n'était pas la seule à souffrir comme ça. Il a vu des personnes qui étaient encore plus atteintes qu'elle. Et là, il s'est rendu compte que vraiment, voilà, c'était concret, c'était réel. Et bon, il a fait marche arrière très vite, au point que maintenant, il s'implique à sa manière dans l'association.
Alors Michel, un petit mot sur cette réaction de ce papa, de Jean-François. D'abord, est-ce que les papas réagissent différemment de façon fréquente? Et est-ce qu'on peut comprendre ce point de vue au début de vouloir pousser sa fille et de pas trop y croire?
Oui, tout à fait. Mais en même temps, même si aujourd'hui, il a fait marche arrière, comme vous avez dit, il n'est pas impossible que les exigences qu'il a eues au début aient porté leurs fruits, en fait. C'est-à-dire que, quand je disais quelques minutes avant, elle est bien courageuse, cette jeune fille, ben, effectivement, elle ne se laisse pas aller. Hein, c'est l'idée que j'avais quand vous avez dit la famille de son père est toujours en activité. Elle ne se laisse pas aller.
Il ne s'agit pas de nier la maladie,
voilà.
Et se battre, c'est quelque chose qui une composante qui peut être très positive.
Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui est très important parce que il y a la maladie, mais il y a aussi le rapport qu'on entretient avec la maladie et avec la personne malade. Et si on entretient une relation avec la maladie qui est de se coucher dans un lit et d'attendre la mort, ben en effet. Il va rien se passer, sauf des choses extrêmement pénibles pour la personne malade et pour son entourage. Si elle essaye, comme elle le peut, de se remettre en marche, il va y avoir forcément des progrès. L'être humain a des capacités et des ressources qu'on n'imagine pas.
Oui, ben ça, je m'en suis bien rendu compte avec notre fille. Oui.
Mais même avec vous, parce que je suppose que dans vos rêves de petite fille, je serai grande et j'aurai un mari et des enfants. Il n'y avait pas un enfant qui a des problèmes comme ça. Donc, effectivement, tout le monde se remet en cause et tout le monde prend ses ressources.
Un dernier mot, puisqu'on approche de la fin de l'émission pour cette semaine. Ça peut être intéressant, Michel, que le papa et la maman aient un rôle différent.
Ah, ben c'est bien, mais ils sont différents. Un homme et une femme, c'est pas la même chose. Bien sûr, ils sont différents. Ils ont chacun une façon de voir le monde et la vie très très particulière.
Merci beaucoup. Et Hélène, on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de votre histoire et de votre témoignage, l'histoire de votre fille Marjolaine qui a 23 ans et qui est atteinte du syndrome Sapho. Dans la dernière partie de l'émission, dans quelques instants, nous répondrons à toutes vos questions. Des dents, restez avec nous. Et la parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h avec Michel Guimel-Chambonnet, votre psychologue. Nous répondons dans la dernière partie de cette émission à vos questions. Retenez bien cette adresse si vous souhaitez témoigner. C'est la même adresse pour poser une question aussi. témoignage@vivrefm.com. Voici, sans plus attendre, la première question. Elle nous vient de Pierrette du 18e arrondissement de Paris. Ma fille et moi habitons le 4e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Elle a des problèmes de mobilité, marche avec une canne, mais me dit que les marches ne la dérangent pas car elle se bat, elle a l'impression de se battre. Devrions-nous déménager?
Ça, c'est une question difficile, à la fois du point de vue du contenu de la question qui est posée, mais aussi des possibilités de trouver un logement en rez-de-chaussée ou avec un ascenseur.
Pas simple de trouver.
Mais déjà, ça c'est tellement difficile. Alors, il est certain qu'il faut faire une demande auprès de la maison départementale de la personne handicapée de façon à demander à un logement adapté, s'il y en a disponible dans Paris, ce qui n'est pas évident. Mais surtout, si la jeune fille a le sentiment que c'est en passant par les marches qu'elle peut se prouver à elle-même qu'elle est encore en état de faire quelque chose d'important, peut-être qu'il faut respecter son désir. Si il n'y a pas de contre-indication médicale importante, bien sûr, il faudrait pas qu'elle se mette en danger. Mais si ça n'est pas le cas, pourquoi ne pas accepter les quatre étages sans ascenseur?
Vous comprenez son point de vue à la fille de Pierrette de vouloir comme ça insister et puis prouver qu'elle y arrive?
Oui, bien sûr, parce que peut-être qu'elle a d'autres, on connaît pas l'histoire de cette jeune fille, mais peut-être qu'elle a d'autres domaines dans sa vie où elle a moins de possibilités de réussir. Et donc, au moins ça, elle peut. Et c'est important à ses propres yeux pour la valorisation que ça lui donne d'elle-même.
C'est souvent ce qu'on a l'occasion de répéter à propos des parents de Pierrette, par exemple. Hein. Les parents qui veulent que tout soit le plus simple possible pour leur enfant.
Et quelquefois, ils veulent trop aplanir les difficultés. Je répète, tant que la sécurité n'est pas en jeu, il n'y a pas de raison de tout aplanir, de faire tout dans un cocon. La vie, c'est aussi des petites pointes de temps en temps, des situations plus difficiles que d'autres, mais on s'en sort. Et c'est important que celui qui est en état de faiblesse sur certaines choses ait le sentiment qu'il peut s'en sortir et qu'il a réussi.
Sabrina nous écrit d'Hermenonville. Mon fils de 18 ans est malvoyant. Il s'apprête à choisir son orientation après le bac, mais il a peur que son handicap le gêne. Peut-il suivre correctement des études supérieures et comment prévoir le mieux possible la rentrée prochaine?
Bien sûr qu'il peut suivre des études supérieures. Il faut qu'il suive des études qui sont adaptées à lui et à ses capacités. Ça, c'est quelque chose qu'il pourra voir avec le CIO, c'est-à-dire le centre d'information et d'orientation de son lycée. C'est aussi quelque chose qu'il peut voir avec les psychologues de la maison départementale de la personne handicapée. Bien évidemment, il peut faire des études et heureusement, il peut avoir un métier et un métier avec lequel il va avoir des satisfactions.
Prévoir le mieux possible la rentrée, c'est le mot prévoir qui est important.
Oui,
il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Là, on est de nombreux mois avant la rentrée, c'est le moment peut-être.
Oui, mais comme pour tous les enfants. En venant, je voyais dans le métro des grandes affiches « Salon post-bac ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et après, j'ai compris qu'effectivement, en début d'année, il est normal de se préoccuper des inscriptions pour la rentrée prochaine. Donc c'est un endroit où je suppose, comme le salon de l'étudiant ou des choses comme ça, où les enfants, les jeunes ont des informations sur les métiers possibles et sur les études pour arriver à faire le métier dont ils ont envie.
Et pour l'accessibilité, en un mot, essayer d'aller voir l'université, la grande école à l'avance.
Tout à fait, bien sûr, oui, évidemment. Mais comme je dirais, n'importe quel jeune qui se prépare à devenir étudiant.
Jackie nous écrit du 20e à Paris. Ma mère est atteinte d'une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer. Elle perd progressivement la mémoire. Comment l'aider efficacement à prendre ses médicaments car elle se trompe souvent?
Alors, déjà, probablement faire un... demander au médecin de réduire la posologie, c'est-à-dire de réduire le nombre de prises de médicaments autant qu'il le peut, hein, évidemment, en fonction des médicaments. Et ça, c'est pas quelque chose que les gens doivent faire par eux-mêmes. C'est vraiment le médecin qui s'en occupe. Et essayer aussi, si c'est possible, de réduire le nombre de médicaments à prendre dans la journée. Et ensuite, organiser avec le pharmacien ou la personne elle-même ce qu'on appelle un pilulier, c'est-à-dire une boîte dans laquelle il y a des petites cases. Alors, selon la façon dont cette maman vit, soit par jour, si quelqu'un peut venir lui remplir le pilulier chaque jour, avec la prise du matin, de midi, etc. Ou alors, si elle, c'est une prise qui se fait, enfin, si personne n'est là au quotidien, à ce moment-là, on lui prépare le pilulier pour la semaine, et c'est vraiment quelqu'un de responsable qui va s'occuper de remplir les petites cases avec le médicament adapté.
Ça, c'est une solution très concrète, le pilulier. On comprend que tout est imbriqué. Hein. Si les traitements sont mal pris, la maladie s'accentue.
Ah, bien sûr.
Ce qui fait qu'elle peut encore moins bien prendre ses traitements.
Dans tous les cas. De toute façon, un traitement, c'est quelque chose qui peut être salvateur, mais qui peut aussi avoir des effets très néfastes s'il est pris n'importe comment.
Manuela nous écrit de Cergy. Mon mari refuse de faire du sport depuis qu'il est en fauteuil roulant. Comment le convaincre de renouer avec son ancienne passion? Quel sport, quel club?
Déjà, voir si le sport qu'il faisait auparavant est encore possible ou pas. Et s'adresser à ses anciens camarades de sport pour voir avec eux ce qui serait possible d'organiser.
Faire du sport quand on est en fauteuil, la première chose, c'est possible. Il y a des gens qui ne savent pas que ça existe, des clubs handisport.
Je suppose qu'il peut au moins aller à la piscine. Donc, puisque dans l'eau, c'est l'eau qu'il portera. Bien évidemment, il peut faire du sport. On voit bien les Jeux Olympiques pour les gens handicapés qui font des choses assez remarquables.
Et qui ne sont pas assez diffusés, mais c'est vrai que c'est remarquable, on en parle ici sur cette antenne. Est-ce que vous pensez que lorsque le handicap survient, on va plus être tenté de faire le même sport qu'avant ou d'en essayer un autre?
Mais je pense que à tous les âges de la vie, on est obligé de changer. Quand on devient beaucoup plus âgé, enfin, entre 20 ans et 60 ans ou 70 ans, il est évident que vous ne pouvez pas avoir les mêmes performances et faire les mêmes activités exactement. Mais il y a tellement d'activités possibles qu'il en reste forcément une qui pourra vous convenir. Donc je pense que c'est dans la tête que se pose la question. C'est pas dans le fauteuil ou dans les jambes.
Puis il y a pas mal d'exemples ici, on en a rencontré sur l'antenne de personnes qui faisaient de la compétition avant et qui refont de la compétition après.
Oui, bien sûr.
Ça vous étonne ça ?
Non, pas du tout. Non, c'est parce que ce sont des personnes qui ont gardé une bonne image d'elles-mêmes et qui se sentent vivants. Je pense que c'est ça le maître mot. C'est quand on a encore du désir, quand on est encore porté vers l'extérieur.
Question de Fadela qui nous écrit du 17e arrondissement de Paris. Ma voisine est âgée et régulièrement en difficulté pour descendre les poubelles, faire quelques courses ou son ménage. Sa famille ne vient pas souvent. Pensez-vous que je pourrais l'aider moi-même et est-ce que je me mêle de ce qui ne me regarde pas?
Le plus simple est d'aller voir la voisine et de lui dire... J'ai vu, j'ai compris, j'ai constaté que vous êtes parfois en difficulté et que vous n'avez pas beaucoup de visites. Est-ce que vous pensez que je peux vous aider à quelque chose? Et si oui, dites-moi à quoi je peux vous aider. Voilà.
Allez la voir, c'est certainement la meilleure
chose à faire. Qui peut dire, à la place de cette vieille dame, ce dont elle a besoin? Il y a qu'elle qui peut le dire.
Vous pensez que parfois on a l'impression que...
On n'ose pas.
On a l'impression justement que c'est difficile. En fait, cette dame
pourrait peut-être bien se débrouiller. Très contente, bien sûr. Mais c'est surtout que on a l'impression que si on va poser une question sur le vrai sujet, la vraie question, on va être intrusif, on va bousculer l'autre. Et quelquefois, l'autre n'ose pas demander, mais il n'attend que ça, bien évidemment.
On parle beaucoup des aidants dans cette émission, c'est le titre de l'émission. C'est courant qu'une voisine, un voisin se retrouve en position d'aider?
Ah oui. Moi, j'ai connu un monsieur qui était un très grand professeur d'université, qui s'est trouvé très âgé, avoir une leucémie. Eh bien, c'est son voisin qui, tous les matins, venait ouvrir tous les volets de la maison. C'était en grande banlieue. Et qui, tous les soirs, venait fermer tous les volets de la maison. Et ça a été vraiment... Et c'était une présence. Alors, il discutait un tout petit peu. Mais en tout cas, il venait tous les jours.
Ça, bien c'est sûr. Des c'est... histoires assez remarquables.
Mais oui, mais des histoires comme ça, on peut vous en raconter vraiment énormément.
Voici la dernière question posée par Jérémy du 3e arrondissement de Paris. Ma femme est aveugle, elle souhaiterait trouver un travail. Comment puis-je l'aider? Comment doit-elle présenter son handicap?
Si elle est aveugle, il y a forcément des tâches qu'elle ne peut pas faire et d'autres qu'elle peut très bien faire. Donc, il suffit de demander à la NPE, enfin, ou non, ça s'appelle Pôle emploi, maintenant, de demander quels sont les emplois qui sont susceptibles d'être occupé par une personne qui ne voit pas.
Il y a même le Cap emploi spécialisé, justement.
Ah, c'est encore mieux. Donc, il faut qu'elle demande, et après, ben, elle n'a rien à présenter de particulier. Elle dira dans son CV qui elle est, quel âge elle a, quelles sont ses compétences, et quelle est la particularité de ne pas y voir.
Alors, bien sûr.
Mais elle a des mains, elle a des oreilles, elle a une bouche, elle peut parler, elle peut répondre au téléphone. Ben, puis, elle en a certainement d'autres qui sont en fonction de sa vie, de son histoire, de ses études.
D'une façon générale, vous conseillez de ne pas trop cacher, de ne pas occulter une partie de son handicap. On a bien conscience que ce handicap ne sera pas tellement
dissimulable. Comment cacher qu'on n'y voit rien? C'est impossible. C'est impossible. Mais je pense que c'est pas le handicap qu'il faut mettre en avant. C'est je sais faire tout ça. Bon, par ailleurs, je vous signale, je suis aveugle. Voilà, mais c'est vraiment par ailleurs.
Et son mari, Jérémy, donc, souhaite l'aider. Lui, quel moment, dans quelles étapes il doit l'accompagner et est-ce qu'il faut aussi qu'il ne fasse pas certaines choses?
Ah, surtout pas la plaindre. Ça, c'est une évidence. Mais il peut l'aider en téléphonant pour elle, ou en tout cas en préparant l'appel téléphonique au Cap emploi. Il peut aussi l'aider en lisant les petites annonces et en voyant s'il y a des emplois qu'elle pourrait éventuellement occuper. Enfin voilà, en parlant à tous les gens autour d'eux dans le quartier, en demandant à tout le monde de répercuter la demande de travail, de façon à vraiment faire circuler la demande, enfin, mais comme n'importe qui fait pour son compagnon, pour ses enfants.
Témoignage@vivrefm.com, c'est l'adresse. Vous pouvez la noter si vous souhaitez raconter votre histoire dans cette émission ou poser une question. On vient d'y répondre. Dans quelques instants, d'autres appels à témoins. Et le thème de Vivre FM, c'est vous pour lundi. Merci beaucoup, Michel.
Au revoir, Christophe.